Son poste.
Il a fait beaucoup de belles promesses aux habitants lors de son élection. Mais 3 mois plus tard, il s'est présenté au scrutin présidentiel. Pour moi, c'est comme s'il avait abandonné les habitants.
Ancien candidat sulfureux, abonné aux sorties misogynes, Heng Guoyu inquiète aussi nombre de Taïwanais pour ses positions ambiguës face à Pékin. Naïdia, 31 ans, a fait 5 heures de route depuis Taipei uniquement pour venir voter.
Nous voulons envoyer un message à la Chine, à Han Guoyu et au parti du Kuomintang. Nous refusons qu'il menace notre démocratie et remette en cause tout ce que la génération précédente a fait pour notre pays.
Radio G 101.5 FM.
Impromptu littéraire.
Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie, le début du XXe siècle.
Poétesse et universitaire, dont nous
amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
Dans cet extrait du chapitre 5, intitulé « Où bourreaux et victimes en mêlent leur récit »,
pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire souvent terrible,
je vous ai choisi un extrait du chapitre 9, intitulé
« Espèce de navire miniature en plexiglas.
On sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
Des textes d'auteurs du 20e et du 21e siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
Auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons d'écouter la voix d'un monsieur de 93 ans qui ne manque pas d'humour, Roger Grenier. En effet, dans son dernier recueil de nouvelles intitulé « Bref récit pour une longue histoire », au titre déjà évocateur, publié aux éditions Gallimard en 2012, il dépeint des scènes de la vie conjugale au quotidien, avec ironie et tendresse. Dès les premières lignes, dans chacune de ces 4 nouvelles, on se trouve au cœur d'une relation brossée avec acuité. Les personnages y sont décrits avec leur humanité, tout comme leurs failles. La chute, comme le veut l'art de la nouvelle, est ambiguë et inattendue, et laisse au lecteur et à l'auditeur l'occasion de la réflexion. Qu'on en juge par ce qui suit.
Au cimetière. Jean-François Privat avait la quarantaine, était marié, sans enfant, ne s'entendait plus très bien avec sa femme, qui avait un caractère difficile. Non, pas difficile, impossible, quand il retrouva Geneviève Passin. Ils s'étaient connus dans leur jeunesse, car ils étaient du même village du Bourdonnais, mais s'étaient vite perdus de vue. Ingénieur, il était parti travailler à Paris, dans une entreprise de matériel électrique. Elle s'était mariée, s'appelait désormais Madame Manglon, et avait vécu un temps en Lorraine, puis s'était installée à Paris avec son mari. Elle était devenue veuve. Plus tard, elle avait eu une aventure avec un diplomate suédois. Mais il était pédant, faisant toujours la leçon, ne lui passant rien. Quand il avait été nommé en Bulgarie ou en Roumanie, elle ne le savait plus, elle ne l'avait pas suivi. Les retrouvailles entre Jean-François Privat et Geneviève Passin, ou Manglon, s'était faite un peu par hasard, grâce à des relations communes. Il s'était plu près de cette femme qui semblait calme et douce et lui rappelait le pays de son enfance. Il voulut la revoir. Elle habitait entre ciel et terre dans une tour du quartier d'Italie. Bientôt commença une liaison. Un doux commerce, sans heurts, sans promesses. Elle était tenue par une famille possessive, 2 grands-fils et une belle-fille, venant d'un premier mariage de son défunt époux. Et lui n'avait pas le courage de rompre le lien conjugal. À la vérité, il avait peur de sa femme. Jean-François Privat et Geneviève se consolaient en exprimant des regrets discrets, en répétant « Quel dommage! Nous nous entendons si bien !» Et puis nous ne nous disputons jamais. Nous ne pourrions pas nous disputer. C'est rare, un homme et une femme qui ne se disputeront jamais. Après 2 ans, Jean-François n'en pouvait plus. Il prit sa décision. Il allait affronter l'orage, quitter sa femme, divorcer. Il se confia d'abord à Geneviève, qui sembla à la fois effrayée et au comble du bonheur. Mais il n'eut pas le temps de réaliser son projet. Il fut terrassé par un AVC, sinistre abréviation pour dire accident vasculaire cérébral. Il resta dans le coma 5 semaines, puis il mourut. Faute d'avoir prévu ou voulu faire la dépense d'une sépulture dans un cimetière comme Montmartre, Montparnasse ou le Père Lachaise, sa femme relégua sa dépouille à Pantin. Perdu dans cet immense champ de tombes et vite oublié. Ce n'était pas tout à fait vrai. La modeste sépulture de Jean-François Privat reçut, à intervalles assez fréquents, la visite de Geneviève Passin, ou Manglon, comme on veut. Elle apportait toujours un petit bouquet, passait un coup de chiffon sur la pierre tombale en ciment. Sa femme n'avait pas fait de frais, du marbre. Puis elle parlait à voix haute. Elle faisait la déploration, le traîne de leurs amours fauchés dans leurs fleurs. Elle lui racontait aussi sa vie, ses jours, ses grands et ses petits soucis. C'était parti pour durer toute leur vie, s'il est permis de parler de vie pour Jean-François. Mais au fil des ans, le défunt, s'il put l'entendre, aurait constaté une évolution dans ce que Geneviève lui racontait. Elle eut beaucoup de soucis avec un de ses fils, mal marié. Puis la belle-fille de sa belle-fille. « Tu me suis, Jean-François ?» avait pris le large à la remorque d'une troupe de comédiens minables. Geneviève se demandait si elle n'assurait pas ses fins de mois de façon plus que douteuse. Bref, elle n'en avait jamais fini avec la chronique familiale. Peu à peu, Geneviève se montrait moins charitable, moins indulgente, moins généreuse. Elle était devenue aussi une adepte des voyages organisés. Elle s'embarquait en car, en avion, en bateau, avec des groupes du troisième âge, pour l'Irlande, Lisbonne, Petra, la Haute-Égypte, l'Andalousie. Elle ne manquait pas d'en rapporter un compte-rendu à la visite qui suivait. Plus que la description des merveilles du monde, elle s'attardait sur les menues contrariétés du voyage. Comment elle avait été obligée de partager une chambre avec une petite dame qui ronflait et émettait d'autres bruits incongrus. Un peu plus tard, elle commença à introduire dans ses récits des histoires d'argent. Elle avait oublié que Jean-François avait horreur des histoires d'argent. Mais pour elle, c'était un très vaste sujet. Elle n'en verrait jamais la fin. Son mari l'avait laissée dans une situation inextricable. Depuis des années, elle se débattait entre banquier, assureur, notaire, avocat. Elle rapportait chaque nouvelle démarche, chaque espoir, chaque déconvenu. Il y avait aussi des problèmes avec des vignobles qu'elle avait conservés à Saint-Pourçain, dans leur Bourdonnais natal. Plus quelques appartements qu'elle possédait à Paris, et souvent les locataires créaient des ennuis auxquels s'ajoutaient les horribles réunions de copropriété, les démêlés avec les syndics. Elle descendait jusqu'aux contrariétés que lui infligeait le gardien de son immeuble et ses femmes de ménage successives. Quand il l'entendait, Jean-François, à supposer qu'il l'entendit, s'étonnait de voir que la femme si douce, si généreuse, devenait au fil des ans âpre, vindicative, obsédée par l'argent. Le pire, c'est qu'au cours de ses rapports au cimetière de Pantin, elle se noyait dans les plus petits détails les plus oiseux. Elle se montrait incapable de discerner entre ce qui pouvait, à la rigueur, présenter un intérêt et le plus fastidieux du quotidien. Quelle femme ennuyeuse elle était aujourd'hui. Une des pires qu'il ait connues. Dans son cercueil, Jean-François Privat n'en pouvait plus. Tout au moins, on l'imagine. Il l'avait aimée dans une autre vie. Pardon, de son vivant. Mais elle avait changé et il n'avait pas su voir ce qu'elle deviendrait. Et comment la faire taire ? On dit se retourner dans son cercueil. Ce n'est qu'une formule, une plaisanterie qui n'a aucune réalité. Ainsi, c'était sa Geneviève, cette femme, cette vieille femme maintenant, cette bavarde insupportable qui cheminait dans les sinistres allées du cimetière de Pantin. Comment disait Baudelaire déjà ? Les morts, les pauvres morts, ont de grandes douleurs.
Léonore. Je voudrais vous parler de Léonore. Déjà, son nom me fait penser à Edgar Poe, au plus célèbre de ses poèmes, quand il évoque « The Royal Brilliant Man whom the angels name Lenore ». Lenore, Léonore, il n'y a qu'une voyelle de trop. Je n'ai jamais vu de créature aussi belle. La regarder vivre est déjà un bonheur. Comment la décrire ? C'est un mot que je n'aime pas, et pourtant c'est le premier qui me vient à l'esprit. Elle est racée. Elle a la noblesse d'une jeune aristocrate, et même de la majesté. Léonore est grande, très grande. Elle porte une robe noire, des bas rouges. Sa démarche est admirable. Quand nous sortons ensemble, on se retourne sur notre passage. J'entends des réflexions flatteuses. Elle n'a que des admirateurs. Je dois avouer, et cela me désole, que Léonore est sensible aux compliments, aux flatteries. Une parole aimable la ferait suivre n'importe qui. Elle semble aussitôt prête à m'oublier. Vous pensez bien que cela ne me fait pas plaisir. Une créature aussi exceptionnelle, on voudrait régner sur elle sans partage. D'ailleurs, qui aime partager ? Je me console en me disant que si Léonore agit ainsi, c'est par bêtise. La grande beauté ne s'accompagne pas toujours d'une intelligence égale. Et, je dois bien l'avouer, Léonore est un peu sotte, mais qui peut se vanter d'être parfait. Moi, ce que je demande aux autres, c'est la douceur, la gentillesse. Ce sont des qualités encore plus rares que l'intelligence, et sans lesquelles l'intelligence ne vaut rien. Léonore possède ces qualités de cœur. Quand je lui parle, ce n'est pas toujours l'étincelle de la compréhension qui s'allume dans ses beaux yeux couleur de châtaigne. Mais je suis sûre d'y trouver toujours la confiance, la disponibilité, l'amour. Il y a une autre créature dans ma vie. Une créature qui me suit partout, d'une pièce à l'autre. À l'heure où je rentre du bureau, elle attend derrière la porte. À table, elle finit ce qui reste dans mon assiette. Son affection se traduit souvent par des élans maladroits. Elle me cogne avec son nez ou son menton. Elle me bouscule. Mais si je la repousse, elle s'en va en gémissant. Je lui pardonne. La maladresse, chez elle, est innée. Elle est pataude. Je ne compte plus les bibelots renversés, les assiettes et les verres cassés et autres catastrophes domestiques. Quand je suis malade, elle se couche en boule au pied de mon lit. Ce qu'elle aime le mieux, c'est que je l'emmène à la campagne. À peine arrivée, elle se roule dans l'herbe. Parfois, je l'entends soupirer dans son sommeil. Peut-être rêve-t-elle de bois, de prés, de ruisseaux. Même dans les rues de Paris, il y a des moments où elle ne peut s'empêcher de courir. Je suis obligée de la rappeler et de lui dire que cela ne se fait pas. Une fois où je l'avais laissée à la maison, pour aller à une manifestation, elle s'est échappée pour me rejoindre. Et elle a su me retrouver au milieu d'une foule de 100 000 personnes. Comment ? Quel instinct l'a guidée ? Je ne saurais l'expliquer. Je l'appelle mon toutou. Il y a une chose que j'ai oublié de vous dire. Je ne voudrais pas vous laisser sur une idée fausse. Léonore, la somptueuse créature à la robe noire et au bas rouge, c'est une chienne de race beauceronne. Et mon toutou, si maladroit, si fidèle et qui m'accueille avec des regards d'épagnol, c'est la femme que j'aime.
À son chevet. Béatrice Morin était restée jusqu'à 8 heures au chevet de Louis, son mari. Il faisait nuit depuis longtemps car on était en fin novembre. Elle avait passé l'après-midi dans la maison de retraite médicalisée du 16e arrondissement où il était placé, alors que son Alzheimer était cette maladie ou une autre du même genre, mais peu importait. Le résultat était le même, c'était aggravé. Aujourd'hui, il l'avait reconnue et elle était restée le faire dîner, une cuillère après l'autre, en répétant « Mange mon ange, mange mon petit ». Maintenant, l'heure des visites était passée. Il fallait qu'elle s'en aille. On n'eût pas cru que les longues années vécues avec Louis avaient été horribles, tout au moins aux yeux d'un observateur étranger. Sous prétexte qu'il était un savant de cabinet, spécialiste de quelques particularités du dialecte homérique, elle n'avait le droit de lui parler que le matin, entre 7 et 9 heures, au cours du petit déjeuner. Ensuite, il s'enfermait dans son bureau et il était interdit à son épouse d'y pénétrer. Il donnait quelques cours, participait à des colloques, un univers dont elle était exclue. Le samedi ne différait pas des autres jours. Le dimanche, il s'accordait une promenade hygiénique au parc Montsouris et Béatrice était autorisée à l'accompagner. On n'invitait à dîner que des collègues à lui. Le repas était animé par des disputes sur des sujets de linguistique. Il arrivait même à la pauvre Béatrice d'être priée de rester à la cuisine pour ne pas perturber le savant colloque. Que pourrait-on dire de positif ? Il ne la battait pas. Jamais elle ne s'était révoltée. Jamais elle n'avait songé à le quitter. Jamais elle n'avait trouvé un autre homme assez aimable pour en faire un amant. Elle avait peu d'amis et aucune qui soit vraiment une confidente avec qui elle eût pu parler à cœur ouvert. Et maintenant, l'esprit naufragé, les hexamètres de l'Iliade engloutis dans on ne sait quel barâtre, il était devenu pareil à un enfant et il fallait le faire manger à la cuillère. Quant à Béatrice, comme si elle avait bu les eaux du Léthé, allusion mythologique que n'aurait pas désavoué Louis le Cuistre, elle n'en pouvait plus d'amour pour son enfant, son chéri, celui qu'il avait toujours adoré. Comme si c'était elle qui était frappée d'une maladie cérébrale. Elle avait oublié la tyrannie, l'interdiction de lui adresser la parole, la relégation à un rang que même une bonne de curé n'eût pas supporté. Il doit y avoir deux mémoires. Celle que l'on pourrait appeler historique, qui conserve ce que l'on a appris au cours de la vie, et l'autre, sentimentale, qui varie, qui évolue, qui n'offre aucune garantie, tant ce que nous éprouvons pour un être peut changer, lentement ou brutalement, sans que nous ayons conscience de telles contradictions. On passe de l'amour à la haine, ou de la haine à l'amour, et nous sommes tellement dévorés par la passion présente que nous perdons le souvenir de l'épisode précédent. C'était le cas de Béatrice. Ce soir de novembre, elle n'arrivait pas à le quitter. Il le fallait pourtant. Elle remit son manteau, elle ajusta son béret devant la glace du cabinet de toilette. Une pensée furtive la traversa et lui fit brièvement honte. Je parais encore jeune, un peu trop maigre peut-être, mais elle n'avait jamais été grosse. Elle embrassa une dernière fois son mari en le couvrant de mots tendres. Le contact de ses joues était humide et elle se rendit compte qu'il pleurait. Jamais, au temps de leur vie commune, elle n'avait vu ses larmes. Même quand un autre helléniste l'avait malmenée à propos de l'interprétation du passage où Achille, dans la fabrication de son bouclier, figure une danse. Même quand une cabale menée par ses chers collègues l'avait empêchée d'être élue au Collège de France. Elle s'arracha enfin à lui, gagna la porte, prit le long couloir, déboucha sur le jardin. Ses pieds se tordaient sur les graviers de l'allée, éclairés par des lampadaires. Elle continuait à murmurer « Mon pauvre petit, mon pauvre chéri !» Soudain, une femme en blouse blanche se dressa sur son passage et écarta les bras, comme si elle voulait la saisir. « Que faites-vous là ? » lui dit-elle. « Retournez dans votre chambre !» À cette heure, vous devriez être couché.
Matignon. le jeune Olivier Marquis n'était pas une lumière. Il n'avait pas pu obtenir son premier bac, et c'était sans espoir. Inutile de redoubler. Il trouva par chance un travail qui correspondait à ses goûts. Grouillot, chez un marchand et réparateur de bicyclettes, boulevard Masséna, près de la porte d'Italie. En ces jours de guerre et d'occupation, il valait mieux ne pas rester oisif. On avait vite fait de vous expédier au STO, dans quelque usine d'Allemagne. Tantôt, Olivier bricolait dans l'atelier, changeait des rayons cassés, retendait une chaîne, réglait un dérailleur, rapiéçait une chambre à air à bout de course. Tantôt, il faisait le coursier. On l'envoyait chercher du matériel aux quatre coins de Paris ou de la proche banlieue. À vélo, bien sûr. Il continuait à habiter chez ses parents, concierge rue de Coulbarbe dans le 13e. Il disposait d'une chambre personnelle aménagée dans un cabinet de débarras de la cour. Il n'avait guère de camarades, encore moins de petits amis. C'est à se demander s'il serait assez dégourdi pour jamais s'en trouver une. Le soir, il rentrait sagement à la maison et suspendait son vélo à un des crochets installé sous un auvent à côté de son réduit. De temps à autre, un homme dans la quarantaine, petit et maigre, mais avec une grosse tête, le front dégarni, arrivait lui aussi avec une bicyclette. Olivier, serviable ou méfiant, il ne savait pas lui-même, sortait de la loge ou de sa chambre pour l'aider à accrocher son engin à côté du sien. Ils échangeaient peu de mots. Le garçon avait toujours eu du mal à s'exprimer et l'homme restait sur la réserve. Il s'engouffrait bientôt dans l'escalier pour gagner une chambre de bonne. Mais il ne rentrait pas tous les soirs. Olivier ne connaissait pas son nom et il paraissait mystérieux, même pour ce garçon d'un naturel peu curieux. Ses parents, les concierges, n'en savaient pas davantage. Le petit homme ne recevait pas de courrier et la chambre lui était seulement prêtée, disait-il, par quelqu'un qui n'était lui-même que sous-locataire. Les semaines passant, les deux cyclistes entamèrent quand même une ébauche de conversation. Olivier fit remarquer à son voisin que son pneu arrière avait l'air un peu dégonflé. Il alla chercher sa pompe dans sa chambre. Peu après, c'était le 6 juin 1944, quand on apprit que les Alliés avaient débarqué sur les plages de Normandie. Olivier manifesta son excitation en élevant la voix, pour une fois. Son interlocuteur lui dit de parler moins fort, et qu'il fallait être prudent, que l'ennemi était encore là, et jusqu'au dernier moment, il pouvait être dangereux. Désormais, dès qu'ils se rencontraient, ils parlaient de la progression des armées, de la libération prochaine. Peut-être pas si prochaine. Nous avons encore fort à faire. Nous ? Le petit homme n'en dit pas plus. Juin passa et juillet. Un des premiers jours d'août, le voisin arriva dans la soirée. Il restait dans la cour sans ranger son vélo. C'est peut-être moi qui l'attends, se dit Olivier qui était encore à table avec ses parents. Il sortit. J'ai quelque chose à vous demander, dit le petit homme. C'est un peu délicat, mais je crois que je peux avoir confiance en vous. Le petit homme s'expliqua. Il avait pensé à lui à cause de son métier de coursier qui lui permettait d'aller et venir. Lui-même disposait d'un agent de liaison, mais les choses se précipitant, il avait besoin de renfort. Est-ce qu'Olivier ne pourrait pas, à la faveur de ses courses dans tout Paris, porter quelques messages ? Oh, c'était sans danger, ou presque. Il n'aurait besoin de rencontrer personne, juste déposer un pli à l'adresse qu'il lui indiquerait. Contemplant le vaste front de son interlocuteur, Olivier dit « Ah, alors vous êtes quelqu'un d'important ?»« Oh, plus ou moins, si l'on veut. La seule chose, c'est qu'il vaut mieux ne rien écrire, ne rien noter, retenir les adresses par cœur. » Le petit homme manifesta une inquiétude. Tu as une bonne mémoire ? Il s'était mis à le tutoyer. Une bonne mémoire ? Olivier n'avait jamais été capable de réciter ne serait-ce que les stances du Cid. Avant la guerre, je savais par cœur les résultats des matchs de foot et surtout le Tour de France. André Leduc, Antonin Magne, du Volari, Specher. Du Volari est un coureur auto. Pardon, je voulais dire l'APB. Je connais aussi les coureurs auto. Étancelin, Chiron, Siki. Batlin Siki, c'était un boxeur. Je voulais dire Barzi. Le garçon accomplit quelques missions pour Joël. Il avait fini par savoir ce prénom, peut-être un nom de guerre. Pas beaucoup, car il restait peu de jours avant la libération. Le 19 août, l'insurrection parisienne se déclencha. Avec les combats de rue, il n'était plus question d'aller travailler. Olivier resta à la maison, inactif, attendant vaguement Joël. Il ne fut pas déçu. Un des premiers soirs, le petit homme revint. Olivier courut le rejoindre dans la cour. « Je ne reste pas. Je suis juste venu te donner des instructions. Mon groupe a reçu l'ordre de s'emparer de l'hôtel Matignon et de l'occuper. Ce sera pour demain matin, à l'aube. Je n'ai pas besoin de toi cette nuit. Viens nous rejoindre dans la matinée. Oh, je ne vais pas bien dormir. Tu n'as pas d'armes, bien sûr. Bah non. On t'en trouvera une. » Sur ces paroles qui bouleversèrent Olivier, le petit homme s'en alla sur son vélo. Le garçon eut en effet le plus grand mal à s'endormir. Mais quand il se réveilla en sursaut, il était 8 heures. Et il mit une chemise propre, une blanche. Il passa à la loge avaler un bol de succédané de café et grignoter un biscuit. Sa mère s'inquiéta. Il n'allait pas sortir alors que ça tirait de tous les côtés. Oh, il parla d'une course urgente. Vraiment, cela ne pouvait pas attendre. Il ferait bien attention. Et le voilà parti. Direction Matignon. Le jeune cycliste gagna l'avenue des Gobelins, laissa à gauche la rue Claude-Bernard et prit la rue Monge, jusqu'à Maubert. Mais là, les choses se compliquèrent. Les Allemands patrouillaient sur le boulevard Saint-Germain avec des motos, des sidecars et même des chars. Il guetta le moment de traverser, gagna la Seine. On entendait des coups de feu. Il suivit les quais jusqu'au boulevard Saint-Michel. Il aperçut que le boulevard était hérissé de barricades. Fallait-il passer le pont et gagner le Châtelet? Il choisit de suivre les quais jusqu'au pont Neuf. Il croisa un motard allemand. À l'arrière, un soldat tenait une mitraillette. Ils le regardèrent avec un drôle d'air. Et il eut très peur. Il s'engagea sur le pont. Henri IV sur son cheval était comme un dieu protecteur. Le voilà sur la rive droite. À l'ombre de la Samaritaine, il roula jusqu'à la rue de Rivoli. Encore un grand axe qui paraissait dangereux. Il valait mieux prendre par les petites rues. Il s'enfonça dans le quartier des Halles qui paraissait mort. Il déboucha rue du Louvre, la traversa pour gagner la place des Victoires. Là, c'était Louis XIV qui l'attendait en majesté et d'un droit impérieux semblait lui indiquer son devoir. Olivier s'engagea dans la rue des Petits Champs. Il se félicitait d'avoir trouvé l'itinéraire idéal. La Wehrmacht ne venait jamais par là. Le quartier était presque désert. La traversée de l'avenue d'Opéra fut un peu plus délicate. Mais derrière, par la rue Saint-Roch, c'était de nouveau le calme. Après avoir examiné la situation, il s'engagea dans la rue Saint-Honoré. Il jugea imprudent d'obliquer vers la place Vendôme et la rue de la Paix. Rue de la Paix. Quelle ironie. Il préféra la rue du Faux. Mais comment éviter la Concorde, les Champs-Élysées? Et il décida de passer derrière la Madeleine et par des rues comme la rue de Suresnes, la rue Cambacérès, je ne savais pas tous les noms. Il suivait la rue de Penthièvre quand, à un croisement, il lut à gauche la plaque Avenue Matignon. Ah, il était tombé pile. Il se vota des félicitations. Il regarda sa montre, un peu plus de 9 heures. Joël avait déclaré avec un peu d'emphase « Nous avons l'ordre de nous emparer de l'hôtel Matignon. » Mais où était-il cet hôtel ? Il n'y avait pas dit le numéro. Olivier descendit une première fois l'avenue en roulant lentement. Il parvint au bout, aux Champs-Élysées, mais pas d'hôtel. Il remonta l'avenue, la redescendit, croisant chaque fois la rue du Faubourg Saint-Honoré. Avant la guerre, les jours de fête, ses parents se payaient le luxe de présenter sur leur table un Saint-Honoré. Et pour Olivier, c'était le symbole du luxe. La crème chantilly, les boules caramélisées. Ah, enfin, il découvrit l'hôtel. Pas exactement l'hôtel Matignon, mais l'Élysée Matignon. En plus, l'établissement n'était pas dans l'avenue, mais à l'entrée de la rue de Ponthieu. Joël aurait pu le prévenir, être plus précis. Il mit pied à terre, attacha son vélo à une grille d'arbre.
Il entra dans l'établissement. Le hall était désert et silencieux. Un portier apparut.
« Je cherche Joël. »«
Joël comment ?»«
Joël, c'est mon chef. »
Le portier ne comprenait pas et l'hôtel restait silencieux.
« Évidemment, ce n'est pas un jour pour les touristes. »« Je me suis peut-être trompé. Joël m'avait pourtant bien dit « Hôtel Matignon ».
Olivier sortit, détacha son vélo et le tenant à la main, recommença à parcourir l'avenue. Rien.
Il est arrivé malheur à Joël et à ses hommes. Et à cette idée, il fut secoué d'un frisson.
Il ne voulait pas y croire. Il refit le même chemin. Il découvrit alors une petite voie privée, longue d'une trentaine de mètres, si étroite qu'il ne l'avait pas remarquée lors de ses premiers passages. Il l'avait prise pour l'entrée d'une cour. Au fond, sur un bâtiment modeste de deux étages, une enseigne hôtel meublé. Il s'engagea dans l'allée, chercha un endroit pour attacher son vélo, ce qui l'obligea à revenir dans l'avenue. Comme il reprenait l'allée, il vit un soldat allemand sortir de l'hôtel. Le Feldgross semblait pressé et bouscula presque Olivier en le croisant. À ce moment, une femme dans la cinquantaine, assez corpulente, sortit sur le seuil.
Olivier lui dit « Vous avez vu l'allemand ?»«
Oh, il n'est pas dangereux. C'est un bureaucrate. »«
Oh, c'est un habitué. » »«
Enfin, c'était. » »«
Et vous, qu'est-ce que vous voulez ?»« Je cherche Joël. »
Joël ?
C'est mon chef. Il devait prendre l'hôtel avec notre groupe.
Prendre l'hôtel ?
Perplexe, la grosse femme déclara.
Venez donc par ici, jeune homme. Je ne comprends rien à ce que vous racontez. Je vais me renseigner.
Il suivit la grosse femme qui le conduisit jusqu'à un petit salon juste derrière la réception. Elle le laissa seul et il l'entendit appeler
« Charlotte !»
Puis comme il ne semblait pas y avoir de réponse,
« Armel !»
Il s'assit sur un canapé.
Au mur, il y avait la reproduction d'un tableau, un jeune homme en costume d'autrefois dans un jardin, et une jeune fille à la fenêtre.
Roméo et Juliette ?
Il y avait aussi deux gravures en noir et blanc, une vue du Mont-Saint-Michel, et sur l'autre mur, le moulin de la Galette. Pas celui du peintre, mais un paysage de la butte avec le vieux moulin qui semblait battre des ailes.
La grosse femme revint, suivie d'abord d'une femme en peignoir, puis d'une autre également en peignoir. Une des femmes grommelait.
« Ah, t'as vu à quelle heure tu nous réveilles ? Qu'est-ce qui se passe ?»
Elle regardait Olivier avec méfiance, presque avec hostilité. Il recommença à dire qu'il cherchait Joël et son groupe.
« Ah, je crois que je comprends !»
dit une des deux femmes, celle qui râlait, une rousse, aux yeux mal démaquillés. Le mascara avait coulé.
Vous êtes des filles, vous allez venir nous tondre. Il paraît que les filles tondent les pauvres femmes.
Elle rajusta les plis de son peignoir sur ses cuisses, à vrai dire un peu forte.
À son tour, Olivier dit qu'il n'y comprenait rien, mais que c'est pas ça. Pas ça du tout. À sa connaissance, personne ne leur en voulait. Et il avait dû se tromper encore une fois d'hôtel. Il esquissa un petit rire. Je vous laisse.
Ah, tu nous as fait peur, dit la seconde femme.
Charlotte ou Armel, en tout cas, une fausse blonde.
La rousse, dit à la grosse femme, tu trouves pas qu'il est bien jeune ?
Et s'adressant directement à Olivier, quel âge as-tu ?
18 ans.
Les trois femmes se regardèrent, dévisagèrent de nouveau l'adolescent, échangèrent de nouveaux regards. Pendant un bon moment, on les eut dit tomber en méditation.
La rousse murmura, vous croyez pas qu'il y a encore...
Et s'adressant directement au garçon, « Ah, t'as l'air sympathique, tu dois plaire aux filles. Tu as une petite amie ?»
Il remua la tête de droite à gauche et de gauche à droite.
« Non, je reviens pas. Est-ce que par hasard, tu serais pas encore... »
Olivier n'était pas sûr d'avoir compris la question inachevée. Il haussa les épaules. La rousse eut comme un cri.
« Il doit l'être !
Il l'est !»
Armel et Charlotte se mirent à se disputer. La fausse blonde demandait quelque chose à la rousse. La suppliait presque. « Tu sais que ça porte bonheur ! Et j'ai tellement eu la poisse ces temps-ci ! Ça ne ferait pas mal !» Pendant cette querelle, la grosse femme restait neutre. Tout au plus, dit-elle à un moment, « Démerdez-vous !» La rousse finit par céder. La fausse blonde prit Olivier par la main, le fit lever de son fauteuil et l'entraîna vers les étages.
C'est ainsi qu'Olivier cessa d'être vierge. Dans son histoire personnelle, il appelait toujours ce moment la libération de l'hôtel Mathieu.
Chaque nouvelle de ce recueil, Roger Grenier raconte les désenchantements de ses personnages qui ne parviennent pas à aboutir à la tranquillité et au dénouement heureux qu'ils espéraient. En quelques lignes, en écrivant à l'économie, il nous résume leur existence ombrée par le regret et traversée par de fugaces rencontres. Roger Grenier est le doyen des éditions Gallimard et nombreux sont ses ouvrages que nous vous invitons à découvrir après Bref instant pour une longue histoire. Cette émission a été préparée par Anne et Christine. Merci aux techniciens Yvan et Claude Michel qui ont inséré la musique de Miles Davis, extraite de l'album Toutou. À bientôt sur Radio G.
Si vous souhaitez réagir à cette émission, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio G 101.5 et la page d'accueil d'Impromptu littéraire. Vous nous y retrouverez.
www.radio-g.fr.
Ton daron fait de l'air guitare après un apéro. Laurent Dutch dans 3-0. Tibor Kovac. Avec des boosters, on joue au domino. Les keufs qui braquent les dealers sont toxico. Le blues. Ta maman aime les engloutirs. Le airboxing t'aidera pas à t'en sortir. La coque est en train de t'engourdir. Wow. Le blues. Pas de booster cette année. Ton vendeur engage une crapule pour te dépouiller. Un coup de briette sur les chaussures de chantier. Ta meuf se tape ton voisin illettré. Oh, oh, le blues. Dans les embouteillages. Tu débranches ta mère pour l'héritage. Le fion de ta sœur, c'est le paysage. Wow, wow, le blues, bébé.